ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc alhamdulillah, nous sommes ensemble aujourd'hui afin de méditer sur Laylatul Qadr et surtout sur un point en particulier, c'est comment profiter de cette nuit bénie, comment profiter de cette période magnifique. Et en réalité, on se doit de prendre conscience à quel point Allah tabaraka wa ta'ala nous a favorisés. On se doit de prendre conscience à quel point Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné un grand bienfait. Allah azza wa jalla, il nous a facilité les portes du bien. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a favorisé, il nous a facilité cette période magnifique. Regardez, nous vivons durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, qui sont les meilleures de toutes les nuits, qui sont les plus bénies de toutes les nuits, qui sont des nuits d'effort, des nuits de concurrence dans le bien, des nuits d'obéissance, des nuits de soumission, des journées de jeûne, des nuits de prière, des nuits de sadaqa, des nuits d'invocation. Subhanallah, nous vivons la fin du mois de Ramadan qui est meilleur que le début tel que son ou le milieu. C'est pour cela que nous devons prendre conscience qu'Allah Azza wa Jal nous a donné un grand bienfait, c'est qu'il nous a facilité le fait d'atteindre ces jours-là, le fait d'atteindre ces nuits précieuses et ces jours bénis. Et subhanallah, encore une fois, nous voyons à quel point ce mois est passé à une rapidité extrême. Encore une fois, nous voyons à quel point le temps est précieux parce qu'il passe très vite. Et ça, en réalité, c'est l'exemple de notre vie. Ça, en réalité, c'est l'exemple de notre vie. Et on avait fait une conférence sur ce sujet qui avait pour titre « C'est peut-être ton dernier Ramadan ». C'est peut-être ton dernier Ramadan. Et en réalité, ça, on se doit sans cesse. On se doit sans cesse de prendre conscience de ces choses-là. Donc, la plus grande partie du mois est partie. Elle s'en est allée. Ça y est. Par contre, ce qu'il reste, c'est du dhahab. Ce qui reste, c'est de l'or. Il reste la partie la plus importante. C'est pour cela que on ne doit pas durant ces jours-ci, avoir la tête, comme beaucoup ont déjà la tête au Eid, ou ils ont déjà la tête à l'après-Ramadan, à Shawwal, à tout ce qui va se passer. Non, le Ramadan n'est pas terminé. Même que la plus grande partie du Ramadan est partie, mais ce qui reste, c'est précieux. Ce qui reste, c'est sublime. C'est pour cela que je dois prendre conscience. Je dois prendre conscience de ce qui reste. Et ça aussi, c'est l'exemple de notre vie. Chacun ici, regardez sur cette assise, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'on a déjà dépassé la plus grande partie de notre vie. Peut-être qu'il nous reste qu'une petite période à vivre. Comme ce Ramadan. Tout ce Ramadan est passé, il nous reste une petite période de Ramadan à vivre. Alors ici, on se doit de se rappeler de la parole de l'Fudayl, où il disait « Ahsin fi ma baqi » Fais du bien dans ce qu'il reste. « Yughfar laka ma qad mada » On te pardonnera ce qui s'est passé. « Wa in lam tahsin fi ma baqi » Mais si tu ne fais pas du bien dans ce qu'il te reste, on prendra, on jugera de toi tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras. Et en réalité, l'exemple qu'il donnait par rapport à notre vie, on se doit de prendre le même exemple ici avec le Ramadan. Peut-être qu'on a eu des manquements. Peut-être qu'on n'a pas fait assez d'efforts. Peut-être qu'on a même commis des désobéissances. Qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne. Durant la première partie, ou la plus grande partie du mois, ben nous devons saisir l'occasion de ce qui reste. Parce que ce qui reste, comme on a dit, ce qui reste, c'est le meilleur. Ce que nous vivons actuellement, ça a une importance capitale. C'est pour cela qu'on doit saisir l'occasion. On doit profiter au maximum de ces jours-là, de ces nuits-là. Et on doit être efficace et perspicace. C'est ça en réalité. Le musulman, il doit être efficace dans ce qu'il fait. Il ne doit pas perdre son temps. Ou faire des choses qu'il pense être bien, alors qu'en réalité, il passe à côté de choses qui sont encore meilleures. C'est ça l'efficacité dans la religion. Donc on a une occasion à saisir ensemble, et c'est pour cela, bi'idhnillah, on va essayer de se rappeler ensemble l'importance de cela, afin de se motiver. Afin de se motiver, et bi'idhnillah, il se peut que nous prenons conscience maintenant de l'importance de ce qu'on a à vivre, et que bi'idhnillah, on va repartir avec cela, on va repartir avec énormément de récompenses. Donc comment profiter de ces nuits, et plus particulièrement, comment profiter de Laylatul Qadr? Comment profiter de Laylatul Qadr? Mais en réalité, la réponse, elle est très simple. La réponse à cette question, elle est très simple. C'est quoi? Je sais maintenant que j'ai une période importante en face de moi. Je sais que durant les nuits que je vais vivre, il y a peut-être, forcément, je vais tomber sur Laylatul Qadr. Dans ce cas-là, comment je dois réagir? Je dois me poser la question. Quel est mon exemple? Quel est mon modèle? Elle est là la réponse en réalité. C'est qui notre modèle? C'est qui notre modèle? Les jeunes, répétez. C'est qui? On doit prendre exemple sur qui? Oui. Ahsan, barakallahu fik. Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est exactement ça la bonne réponse. On doit prendre exemple sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Dans ce cas-là, il nous suffit de regarder comment lui, il faisait durant ces 10 dernières nuits. Et automatiquement, on aura notre programme, on aura notre modèle, on aura la voie à suivre. Et ça, encore une fois, c'est l'exemple de toute notre vie. On veut aller au paradis, on veut être écarté de l'enfer. On regarde, on suit la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle va nous mener au paradis et elle va nous écarter de l'enfer. C'est pour cela qu'il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, « Kullu ummati yadkhuluna al-jannah » Toute ma communauté entrera au paradis. « Illa man aba » Sauf celui qui refuse. Les compagnons, ils étaient choqués. Comment quelqu'un va refuser le paradis? Il a dit, ils ont dit, comment quelqu'un va refuser le paradis? Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, de dire, « Man ata'ani dakhala al-jannah » Celui qui m'obéit entrera au paradis. Et celui qui me désobéit aura automatiquement refusé l'entrée au paradis. Ça veut dire que on a en face de nous la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour cela qu'on se doit de la mordre à pleines dents. On se doit de la mordre à pleines dents. Ça veut dire quoi la mordre à pleines dents? Les savants, ils donnent l'exemple de qui? D'une personne qui est noyée. Imagine un seul instant, tu es tombé du bateau. C'est pas tu es tombé du bateau et tu as une échelle. Le bateau, il est parti. Tu te trouves tout seul, dans un océan, prêt à te noyer. Tu n'as plus de force. Et là, quelqu'un, il revient, il te lance une corde. C'est ton seul moyen pour remonter sur cette barque. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas simplement la prendre avec deux doigts ou avec une main et tu vas te laisser. Non, tu vas la prendre et en plus, tu vas la croquer. Tu vas la mordre. Pourquoi ? De peur de si mes mains elles partent. Moi, je l'ai encore. C'est pour cela que le prophète, alayhi sallam, dit « Addu alayha bin nawajid ». C'est pour cela que le prophète, alayhi sallam, lorsqu'il nous parle de sa sunnah, lorsqu'il dit « Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai al-rashidin al-mahdiyina min ba'di » Prenez, suivez, accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah de mes califes bien guidés. Mordez-la à pleines dents. Mordez-la à pleines dents. Pourquoi ? Parce que si on s'écarte, on s'éloigne de la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, on est noyé, on est voué à la perdition, on est voué à la perte. C'est ça. Ça, c'est l'exemple de notre vie. C'est pour cela que la sunna, on doit s'accrocher. Lorsque, et c'est ça, « Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah ». Regardez, des fois, quand une personne, elle vient, elle se convertit à l'islam. On l'entend répéter la shahada, ça nous fait quelque chose. Tu vois la personne, elle répète la shahada, ça te fait quelque chose. Mais en réalité, des fois, même nous, on n'a même pas compris cette shahada. Même nous, des fois, on ne comprend pas c'est quoi « Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah ». Lorsque tu dis toi-même dans l'adhan, tous les jours, on revivifie cela. « Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah ». J'atteste qu'il n'y a aucune divinité, j'atteste que le messager d'Allah, que Muhammad est le messager d'Allah. Ça veut dire quatre choses. Ça retient ça toute ta vie. C'est ça notre dîn. C'est quatre choses. L'attestation de Muhammad al-Rasulullah que l'on entend chaque jour dans l'adhan, c'est ces quatre choses-là. Premièrement, je lui obéis dans ce qu'il m'a ordonné. Retiens cette règle. À chaque fois que tu entends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cette... Ne cherche pas, arrête de chercher à comprendre. Oui, mais mes parents ceci. Oui, mais au bled comme ça. Ouais, mais tel imam ceci. Un Nabi alayhi sallam t'a ordonné, tu t'arrêtes, tu fais. Tu te soumets. Ta'atuhu fima amar. Deuxième chose, le fait de s'écarter à l'ijtinab, le fait de s'écarter totalement, de s'éloigner de ce qu'il a interdit. Tu entends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu telle chose ou telle chose, ne cherche plus à comprendre. Tu t'écartes, tu ne la fais pas. Tasdiquhu fima akhbar. C'est le fait de rendre véridique ce qu'il nous a donné comme information. Cela vient du prophète alayhi salatu wa salam, le hadith est authentique, le hadith est bon. Prends, ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à savoir, ne perds pas ton temps à te noyer dans des suppositions. Et la quatrième chose, an ta'budallah, c'est que tu adores Allah comme lui il a adoré Allah azza wa jalla. Adore Allah, tabaraka wa ta'ala, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a adoré. C'est pour cela qu'on a dit que la réponse, elle est simple. Comment profiter de Laylatul Qadr? Comment vivre durant ces 10 dernières nuits? Tout simplement, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vécu durant ces 10 dernières nuits. Donc là, la question que je dois me poser en réalité, c'est que faisait le prophète, alayhi salatu wa sallam? Qu'a-t-il enseigné à sa communauté afin que je le prenne comme modèle. Alors le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui, il recherchait Laylatul Qadr quand ? Est-ce qu'il recherchait Laylatul Qadr seulement durant la nuit du 27 ? Est-ce qu'il recherchait Laylatul Qadr seulement dans les nuits impaires ? Non, c'est pas là, c'est pas ça qu'il faisait le prophète, alayhi salatu wa sallam. Est-ce qu'il recherchait Laylatul Qadr seulement durant le Tarawih ? Et ensuite, khalas, j'ai fait tarawih, ça y est. Est-ce qu'il recherchait Laylatul Qadr en faisant des innovations, des inventions? Non. Comment il recherchait le prophète? Quand le prophète, alayhi salatu wasalam, recherchait Laylatul Qadr? Dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Dans les 10 dernières nuits de Ramadan, khalas. Prends cette information. Qui nous le dit? La personne qui est le mieux placée pour nous dire ce que faisait le prophète alayhi salatu wasalam, à savoir sa femme Aïcha radiyallahu anha, elle dit idha dakhalat al-ashr, lorsque les 10 dernières nuits entraient, ijtahada fil ibada,
il faisait des efforts dans l'adoration, ma la yajtahidu fi ghayri, ce qu'il ne faisait pas dans un autre moment. Et on connaît les degrés d'adoration du prophète alayhi salatu wassalam en dehors du Ramadan. On connaît les degrés d'adoration du prophète alayhi salatu wassalam durant les 20 premiers jours de Ramadan. Mais durant les 10 dernières nuits, durant la fin de Ramadan, durant les 10 derniers jours de Ramadan, il adorait Allah Azza wa Jal encore plus qu'il le faisait déjà. Regardez, ça c'est notre modèle. Ça c'est notre exemple. Ça c'est notre moteur. Il est là, c'est ça. Notre point d'ancrage, il est là. Je prends cela et j'avance à partir de ce que Aïcha radiyallahu anha disait. C'est-à-dire que durant ces nuits-là, le prophète alayhi salatu wassalam, il donnait une importance particulière à la ibadah. Il donnait une importance particulière à l'adoration, encore plus que qu'il l'a donné avant, bien qu'il l'en faisait déjà énormément. Il veillait la nuit. Il veillait la nuit. Alors que les 20 premières nuits de Ramadan, le prophète, alayhi salatu wassalam, il priait, il faisait du bien, et il prenait un temps pour se reposer. Et pendant les 10 dernières nuits, ça y est, c'est la fin. Innama al-a'malu bil khawatim. C'est la fin. Dans ce cas-là, il veillait la nuit. Il veillait la nuit entière et il passait sa nuit dans l'adoration. Comment nous le savons? Toujours un hadith, un autre hadith de Aïcha, radiyallahu anha, où elle dit, « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha dakhala al-ashr. » Lorsqu'entraient les 10 dernières nuits, le prophète alayhi salatu wa sallam, « ahya al-layl. » Il veillait la nuit. « Wa ayqadha ahla. » Il réveillait sa famille. « Wa jadd. » Il redoublait de piété. وَشَدَّ الْمِئْزَرْ et il serrait son izar. Quatre choses. Nous allons méditer sur ces quatre choses et dans ces quatre choses, nous avons notre programme jusqu'à la fin du Ramadan. Ça y est, ton programme, il est fait. Ton programme, il est là dans ces quatre choses. Premièrement, il veillait la nuit entièrement. C'est-à-dire qu'il était plongé dans l'adoration. La prière, la lecture du Coran, les invocations, le rappel, le khayr. Et il ne passait pas son temps, comme malheureusement beaucoup d'entre nous, dans des futilités. Alors certains, beaucoup parmi nous, veillent la nuit. Sur ça, on n'a pas de doute. Par contre, est-ce qu'on veille la nuit comme le veillait le prophète alayhi salatu wassalam? Non. Veiller la nuit, ce n'est pas rester éveillé. Veiller la nuit, c'est passer le plus de temps de ta nuit dans l'adoration. Ce n'est pas dire que c'est interdit de dormir. On n'est pas en train de dire ça. Mais la plus grande partie de ta nuit, c'est quoi? C'est l'ibada, c'est l'adoration. Et des fois, je vous promets qu'il est préférable de dormir que de faire ce que certains y font durant ces nuits-là. Et en réalité, même en dehors des autres nuits. Passer son temps dans les futilités, passer son temps dans la rigolade, passer son temps dans la perte de temps, passer son temps à regarder des choses que tu n'oserais même pas regarder devant tes enfants. Tu n'oserais même pas regarder devant tes enfants, tu vas aller passer ces moments-là. Donc des fois, il vaut mieux dormir que faire cela. À la kulli hal, le prophète, alayhi salatu wassalam, il passait, il veillait ses nuits dans quoi? Dans l'ibada. Deuxièmement, est-ce qu'il faisait cela tout seul et il laissait sa famille en train de dormir, en train de perdre son temps? Non. Ayqadha ahlahu. Il réveillait sa famille, le prophète, alayhi salatu wassalam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est motivé. Il les incitait durant ces 10 dernières nuits. Il les motivait, il les incitait à faire du bien. Et là, on voit comment le prophète, sallallahu alayhi wassalam, était un conseiller. Un merveilleux conseiller pour sa famille, envers sa famille. C'est comme ça que l'on doit être envers nos enfants, envers nos femmes, envers nos familles. C'est comme ça qu'on doit être. C'est des bons conseillers. On ne doit pas prendre le khair pour nous et laisser, et fermer les yeux, et faire semblant de rien. Faire semblant de rien. On voit nos enfants qui sont en âge de prier et on les laisse dormir, on ne les réveille pas pour le fajr. Sous prétexte qu'ils vont être fatigués. Subhanallah. C'est toi qui connais ton enfant ou c'est le créateur de C'est le créateur de ton enfant, c'est le créateur de l'être humain qui sait ce qui est bon pour lui, ou c'est toi le père ou la mère qui sait ce qui est bon pour lui? Crains Allah Azza wa Jalla dans tes enfants. Ton enfant est en âge de prier, il n'y a pas, tu ne réfléchis pas. Il se réveille, il prie, il dort après, il y a le problème. Quand il y a un avion, tu vas dire quoi? On va rater l'avion parce que qu'il va être fatigué. Non, là, tu vas le réveiller. Lorsqu'il doit aller, il y a une sortie le lendemain pour jouer, pour s'amuser, tu vas le réveiller. Peut-être même il a un traitement à prendre. Si le médecin il te dit ton enfant il est malade, il a un traitement à prendre. Tous les matins tu dois le réveiller à telle heure, il doit prendre son traitement. Tu fais quoi? Tu dis au médecin, non désolé, tu ne vas même pas réfléchir, ces questions ne vont même pas. Là, quel plus grand traitement pour notre cœur que d'éduquer nos enfants sur la prière? Quel plus grand traitement pour notre cœur que d'éduquer nos enfants pour la prière? Donc on doit craindre Allah Azza wa Jal dans nos familles. On doit craindre Allah Azza wa Jal dans nos épouses. On doit craindre Allah Azza wa Jal et être un bon conseiller pour nos familles, comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À tel point qu'il est rapporté que durant certaines nuits, le prophète alayhi wa sallam, il prenait de l'eau et il jetait dans la tête de ses épouses. Il jetait dans la tête de ses épouses. Pourquoi? Pour les réveiller, pour les motiver. Aujourd'hui, tu vas faire ça. Hein? Mais à la kulli hal, dans le sens, c'est pas dire que tu viens et tu jettes de l'eau, mais ici, réveille. Motive. Même si des fois tu parais un petit peu lourd, mais toi c'est ton rôle. Motive-les de la meilleure manière et bi'idhnillah tu en verras la baraka. Troisièmement, il redoublait de piété. C'est-à-dire il redoublait d'efforts dans l'adoration. Quatrièmement, il serrait son izar. Le izar, c'est ce que l'on met. Vous avez vu quand on fait un exemple là. Aujourd'hui, nous on connaît le izar. C'est seulement quand on va se mettre en état d'ihram. Mais avant, c'était l'habit. Le izar, c'est ce qu'on va mettre, le panier que l'on va mettre au niveau de la hanche. Alors, le prophète, alayhi salam, shadda mi'zarahu. Il serrait son izar. Qu'est-ce que ça veut dire, il serrait son izar? Les savants l'ont expliqué de deux manières. Ils ont expliqué cette parole de deux manières. Premièrement, ils ont dit que le fait que le prophète alayhi salam serrait son izar, dans le sens il le serrait réellement. Il serrait réellement son izar tellement il adorait Allah. Tellement il était dans l'adoration. Tellement il était dans cette concurrence vers le bien. Tellement il faisait du bien, il le serrait. En mode, il le serre et il prie, il fait du bien, etc. Ça c'est une des explications que les savants musulmans nous ont données. Deuxième explication, les savants, ils ont dit, c'est ce qu'on appelle une kinaya. Une kinaya, je pense qu'on dit une périphrase en français. La périphrase, c'est le fait de donner une chose, mais le sens voulu, c'est pas forcément celui-là, mais c'est quelque chose d'autre. Ici, c'est dans le sens, la kinaya ici qui est voulu, c'est quoi? C'est dans le sens, il serrait son izar, dans le sens, il n'avait pas de rapport avec ses épouses. Il n'avait pas de rapport avec ses femmes. Pourquoi? Tellement il était plongé dans l'adoration. Il ne prenait pas de temps pour cela. Et à la kulli hal, en réalité, les deux explications sont bonnes. Et les deux explications se rejoignent. D'accord? Donc le résumé de cela, c'est que ce hadith nous prouve que les 10 dernières nuits, ce sont des nuits très importantes. Pourquoi? Parce que dans ces 10 dernières nuits, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rechercher Laylatul Qadr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité de rechercher Laylatul Qadr. Et lui-même, il l'a recherché pour lui-même. Lui-même, Nabi alayhi salatu wa sallam, il l'a recherché. Et si tu veux tomber sur Laylatul Qadr, tu vas tomber quand dessus? Dans les 10 dernières nuits. Ça veut dire que c'est toutes les 10 dernières nuits qu'il faut profiter. Et pas attendre, et on le répète, mais c'est important que ce soit entendu et propagé, pas attendre la 27e. Certains, sur toute l'année, ils vont attendre la 27e. Ils vont mettre une belle taqiya, une belle djellaba, et ils vont venir, et ils vont penser que, ça y est, ils ont fait l'adoration pour toute leur année. Non, c'est pas ça notre din. C'est pas ça. Allah, tabaraka wa ta'ala, parmi les grandes sagesses d'Allah, azza wa jal, c'est qu'il nous a caché cette nuit. C'est une nuit qui bouge. Elle est dans les 10 dernières nuits. Plus probable qu'elle soit une nuit impaire. Et encore là aussi, une des erreurs que l'on fait, c'est qu'on calcule 21, 23, 25, 20. Mais en réalité, nuit impair. Tout dépend par où tu la regardes. Elle peut tomber soit impair, soit pair en réalité. Donc vas-y toutes les nuits. Certains, ils pensent, oh, c'est quoi ce soir? Ah, oh, 24e, oh, c'est bon. Subhanallah. Ça, c'est une perte. C'est quoi? 26e, oh, c'est bon. 28e, c'est bon. En fait, donc ça devient 5 nuits pour toi. Non. Les 10 dernières nuits, de la 21 jusqu'à la fin. Ça y est, tu es en mode marathon. Tu es en mode concurrence dans le bien. C'est une course. C'est exactement ça. C'est exactement comme cela que l'on doit comprendre les 10 dernières nuits. Et les parents ont longuement parlé sur cela. 10 dernières nuits, par où tu regardes? À partir de la 21 ou à partir de la fin? Si le mois il se finit à 29, c'est plus la même chose. Si le mois il se finit à 30, c'est plus la même chose. Comment tu peux savoir s'il se finit à 29 ou à 30? Tu ne peux pas le savoir. Parce qu'elle a fait ça les 10 dernières nuits. C'est pour cela que c'est un long sujet. Pas rentrer dans les détails, mais le résumé de toute la parole de quoi c'est quoi? Profite les 10 dernières nuits. Profite durant les 10 dernières nuits. Subhanallah, le prophète alayhi salat, il dit un hadith dans Sunan ibn Majah. Un hadith rapporté par Anas ibn Malik. Écoutez ce hadith, il est magnifique. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Inna hadha shahr » Yani Ramadan. « Inna hadha shahr qad hadarakum » Certes, ce mois, donc le mois de Ramadan, ce mois vous est parvenu. Ça, en réalité, c'est parmi les plus grandes choses que l'on doit prendre conscience. C'est qu'Allah Azza wa Jalla nous a laissé vivants durant ce mois-là. Subhanallah, nous sommes vivants et le mois est arrivé. Nous sommes en bonne santé, nous sommes guidés. Combien ne font même pas la différence entre Ramadan et pas Ramadan, entre les 10 dernières nuits et n'importe quelle nuit? Rien, il n'y a rien. Pour eux, ils vivent normalement, complètement plongés dans leur péché. J'ai parlé avec quelqu'un, subhanallah, un frère que je connais. En pleurant, il me disait, Yassine, j'arrive pas à aller à la mosquée. Je prends la route, je marche vers la mosquée, en plein milieu, je fais demi-tour. Il me dit, je ressens une lourdeur. Regarde, subhanallah al-azim, comment des fois tes péchés t'emprisonnent. Remercie Allah Azza wa Jal, toi et ta facilité. Regarde la facilité que tu as. Remercie Allah Azza wa Jal pour cela. Et profite d'invoquer Allah Azza wa Jal pour nos frères et nos sœurs qui sont égarés, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala les guides et profite de demander à toi. Aujourd'hui tu es là, demain tu ne sais pas où tu es. Aujourd'hui tu es à la mosquée, demain tu ne sais pas. Allah Azza wa Jal, ya muqallib al-qulub, parmi les plus grandes invocations que disait le Nabi alayhi salatu wa salam, ya muqallib al-qulub, ô toi qui tourne les cœurs, thabbit qalbi ala dinik, raffermis mon cœur sur ta religion. Combien de personnes aujourd'hui, elles sont là avec toi à la mosquée? Combien de personnes aujourd'hui, elles t'exhortent? Demain, c'est toi qui les exhorteras. Tu ne subhanallah. C'est pour cela qu'on se doit de prendre conscience. Et ça, c'était un rappel. Ça, c'était un grand rappel. Pour nous en premier. Et surtout pour nos frères et nos sœurs qui fréquentent la mosquée que pendant le mois de Ramadan. Ne sois pas de ceux qui adorent le Ramadan. On adore Allah. Et Allah, c'est le Seigneur du Ramadan comme c'est le Seigneur des autres mois. C'est le Seigneur de Shawwal, c'est le Seigneur de tous les mois. C'est pour cela, ne sois pas parmi les adorateurs de Ramadan. Bi'sa al-qawm, quel mauvais peuple. Man ya'arif Allah, illa fi Ramadan. Quel mauvais peuple que celui qui connaît Allah que pendant Ramadan. Donc ici, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, certes, ce mois vous est venu. Fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Il y a dans ce mois une nuit qui est meilleure que mille nuits. Écoutez ce qu'il dit le prophète alayhi salam. Et ça, en réalité, ce hadith là, on doit prendre conscience. Regardez, on se pose la question aujourd'hui, comment profiter, comment faire? Regardez ce hadith. Il y a dans ce mois une nuit qui est meilleure que mille nuits. Man hurimaha faqad hurima al-khayr kullah. Celui qui est privé de cette nuit aura en réalité été privé de tout le bien. Celui qui est privé de cette nuit aura été privé de tout le bien. وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحِرْمَانِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحِرْمَانِ Amin. Celui qui est privé de cette nuit, il est privé de tout le bien. Et écoutez ce qu'il dit le prophète, alayhissalam, et n'est privé de son bien que seulement quelqu'un qui est mahrum, quelqu'un qui est privé de tout le bien. En fait, dans cela, le prophète, alayhissalam, il nous incite ou il nous informe de la gravité de perdre son temps, la gravité d'être privé. C'est pour cela qu'on se doit de demander à Allah, tabaraka wa ta'ala, d'être préservé contre le hirman, contre la privation, le fait d'être privé du bien. Ça, c'est la plus grande des punitions. C'est qu'Allah Azza wa Jal te prive du bien. Et un des plus grands des bienfaits, c'est qu'Allah, il t'ouvre les portes du khayr. Il t'ouvre les portes du bien. Alors, comment profiter de Laylatul Qadr? Ici, on peut donner comme élément de réponse de connaître les bienfaits, la valeur, les mérites de Laylatul Qadr. C'est pour cela que les conseils et le grand conseil que les savants musulmans nous donnent durant cette période, c'est de lire le tafsir de Sourate Al-Qadr. C'est d'étudier le tafsir de Sourate Al-Qadr. Prenez le tafsir, ne serait-ce de l'imam Sa'di ou le tafsir de l'imam Ibn Kathir. Ce sont des livres qui sont connus dans chaque mosquée, ils sont même traduits en français. Tu prends ce tafsir-là et tu lis, et tu étudies, tu lis cette sourate, tu médites sur cette sourate. Parce que cette sourate en entier, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne l'importance, nous motive, nous donne le grand mérite de cette nuit, qui est Laylatul Qadr. Alors quelques points résumés très rapides. Laylatul Qadr, la nuit d'El Qadr. Ça veut dire quoi, Laylatul Qadr? Pourquoi cette nuit elle a été appelée comme ça? Laylatul Qadr. Elle n'a pas été appelée Laylatul Khayr, Laylatul Ghufran, Laylatul. Non, elle a été appelée Laylatul Qadr, la nuit d'El Qadr. Donc pour comprendre ce que veut dire la nuit d'El Qadr, il faut comprendre ce que c'est qu'El Qadr. El Qadr en arabe, on peut tirer deux sens. Le premier sens, El Qadr bima'na al-makana. Al-Qadr dans le sens, c'est la valeur, l'éminence de cette nuit. Parce que cette nuit est la meilleure nuit de toute ta vie. Cette nuit est la meilleure nuit de toute l'année. Cette nuit est la meilleure nuit du mois de Ramadan. Cette nuit est la meilleure nuit, la nuit la plus bénie, la nuit la plus... Subhanallah. Laylatul Qadr, la nuit de l'éminence, la nuit de la valeur. Deuxièmement, le mot Al-Qadr, il peut revenir à... aux décrets. Les décrets qu'Allah tabaraka wa ta'ala a tout décrété, tout choisi, tout écrit dans l'awh al-mahfouz, les tables gardées, ce livre qui est auprès d'Allah azza wa jal. Tout est déjà écrit. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah azza wa jal a ordonné à la plume d'écrire tout ce qui va se passer. Allah azza wa jal a ordonné d'écrire. Cela est préservé auprès de lui, dans l'awh al-mahfouz, subhanahu wa ta'ala. Par contre, durant cette nuit-là, on a ce qu'on appelle al-taqdir al-sanawi. Durant cette nuit-là, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne aux anges de prendre les informations qui sont dans ces pages gardées, dans ces livres gardés. Et lorsque les anges descendent sur terre, ils descendent avec ça. Ils descendent avec le décret. C'est pour cela qu'on peut l'appeler la nuit du décret. Ça, certains l'appellent la nuit du destin. La nuit du décret, en réalité. Le plus bon terme, c'est celui-là. La nuit du décret. C'est-à-dire que les anges, ils descendent sur terre et ils ordonnent en fonction de ce qui leur est confié. Et ça, subhanallah, quand tu prends conscience de cela, quand tu prends conscience de ce grand bienfait, ça va te faire prendre conscience de l'importance de cette nuit-là. Tu dois prendre conscience que durant cette nuit-là, les nuits que nous vivons, peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être après-demain, les nuits que nous vivons là, tu dois prendre conscience que la destinée descend sur terre. Tu dois prendre conscience que ton risque, ta subsistance, elle descend. Tu dois prendre conscience que la vie de chacun, la mort de chacun, cela descend. à tel point, vous savez ce qu'il disait Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, cette phrase, en réalité, on se doit de la méditer chaque jour, chaque instant. Il disait, « Innaka la tara ar-rajulu yamshi fil aswaq » Il dit, certes, tu vois les gens, là, les hommes, les gens en train de marcher dans les marchés, en train de vagabonder, en train de marcher. Tu vois les gens en train de vaquer à leurs occupations. Il dit, « وَقَدْ وَقَعَ اسْمَهُ » alors que son nom est déjà inscrit parmi les morts. Ça veut dire qu'il est possible que durant cette nuit-là, ton nom sera inscrit parmi ceux qui vont mourir cette année. Et la personne, elle est là, et elle va à ses occupations, et elle ricane à pleine voix, etc., sans prendre conscience qu'en réalité, peut-être que ça y est. Ton nom, ça y est, il est descendu, c'est toi. Tu es inscrit parmi ceux qui vont mourir cette année. Parmi ceux qui ne seront plus de cette terre. C'est pour cela que lorsque tu prends conscience de cela, tu vas faire un maximum d'adoration durant ce qui te reste à vivre. Et ensuite, lorsqu'il a dit ça, il a récité les versets où Allah Azza wa Jalla dit « Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah » Nous l'avons certes fait descendre durant une nuit bénie. Regardez comment Allah Azza wa Jal, il a décrit cette nuit. Une nuit mubaraka, une nuit bénie. Inna kunna munzirin. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Durant cette nuit-là, est décidé tout ordre sage. Ça veut dire que toutes les choses qui vont se passer jusqu'à la prochaine Laylatul Qadr, que ce soit la vie, que ce soit la mort, l'ensemble des malheurs, la subsistance, cela sera écrit. Subhanallah, même le Hajj, c'est inscrit cette nuit-là. Tu veux faire le Hajj? Tu veux être parmi ceux qui feront le Hajj, là, bi'idhnillah, fin début juillet? Tu veux être parmi ceux qui vont faire le Hajj? Eh bien, sache que la liste de ceux qui ont été invités par Allah Azza wa Jal descend durant Laylatul Qadr. Et ça, c'est la parole de Ikrimah. La parole de Ikrimah, il dit, on permet aux gens d'aller faire le Hajj durant la nuit d'Al Qadr. Ils sont inscrits par leur nom et tous ceux qui ont été inscrits, personne ne sera omis, personne ne sera rajouté et personne ne sera enlevé. Et il a récité le verset « Fiha » Yufraqu kullu amrin hakim. Durant cette nuit est décidé tout ordre sage. Durant cette nuit est décidé tout ordre sage. Donc lorsque tu prends conscience de la valeur de cette nuit, tu vas prendre conscience de l'importance de faire un maximum d'invocations afin que ta destinée soit, afin de profiter de cela. Également, parmi les points à connaître durant cette nuit, c'est que les anges descendent sur terre. Subhanallah, c'est une nuit durant laquelle les anges descendent sur terre en grand nombre. Ils descendent en masse. Et cela le fait, la descente des anges. Cela nous renvoie à quoi ? À la miséricorde. Ils descendent réellement. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal fait descendre les anges sur terre, il les fait descendre avec ar-rahmat, avec les miséricordes, ou al-barakat. Avec les bénédictions, wal khayrat, avec les bienfaits, wal hibat, avec les dons, avec les faveurs, etc. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit Tanazzalu al malaika wal ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Durant cette nuit, les anges descendent en masse, ainsi que l'esprit qui est l'ange Jibril alayhi salam, et cela par ordre de leur Seigneur. Cela par ordre de leur Seigneur. C'est pour cela qu'Abu Huraira radiallahu anhu, il dit Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Abu Huraira, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laylatul Qadr, Laylatul Sabi'ah, ou Tasi'ah wa Ishirin. Laylatul Qadr, c'est la nuit de la 27e ou la nuit de la 29e. Et comme on l'a dit, tu as plusieurs hadiths sur cela, recherchez-la dans les 10 dernières nuits. De rechercher là, dans les 7 dernières, dans les 5 dernières, etc. Dans les nuits impaires, ça veut dire qu'en réalité, c'est une nuit qui bouge. Cette année, elle est là, l'année prochaine, elle est là, etc. Donc, recherche-la. Et il dit, recherche, il dit, Laylatul Qadr, c'est la 27 ou la 29. Mais comme on a dit, d'autres hadiths, nous, c'est une autre. C'est pour cela qu'on doit la chercher durant les 10. Inna al-mala'ika tilka al-layla fi inna al-mala'ika tilka al-layla fi al-ard. Certes, durant cette nuit, les anges descendent sur terre. Akthar min adadi al-hasa. Les anges, ils sont plus nombreux que le nombre des cailloux qu'il y a sur terre. Ils sont plus nombreux que le nombre des cailloux qu'il y a sur terre. Et ce hadith est rapporté par Ahmad et authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr, subhanallah. Laylatul qadr est meilleur que 1000 mois. Laylatul qadr est meilleur que 1000 mois. L'imam al-Tabari rahimahullah dans son tafsir, il dit: le sens de cela, c'est qu'une œuvre, une bonne action qui est pratiquée durant cette nuit est meilleure qu'une bonne action qui serait pratiquée durant 1000 mois dans lequel il n'y a pas Laylatul Qadr. Une bonne action qui est pratiquée durant Laylatul Qadr est meilleure qu'une action qui est pratiquée pendant 1000 mois dans lequel il n'y a pas Laylatul Qadr. 1000 mois, ça correspond à combien d'années? Environ 82 ans. Ça veut dire qu'une action que tu vas faire durant cette nuit est meilleure qu'une action que tu fais pendant 82 ans. Subhanallah, regarde, quand tu vois une personne autour de toi qui a dépassé 80 ans, et cette personne, tu sais qu'elle a vécu toute sa vie dans l'adoration. Mais imagine que ce que tu vas faire durant Laylatul Qadr, ça va être équivalent à cela. T'imagines la patience qu'il faut, la motivation qu'il faut, le mérite de cette personne qui a dépassé 80 ans et toute sa vie, il a œuvré dans l'islam, dans le bien, dans le khair, dans la soumission, dans l'obéissance, dans l'ikhlas, dans la sunna, t'imagines? Ben toi, regarde ce que tu peux gagner, ce que tu peux gagner comme. Et surtout, tu te dis, une œuvre que tu peux faire, elle est meilleure que quoi? Que 1000 mois. 1000 mois, on a dit, c'est 82 ans. Subhanallah. Est-ce que tu sais si tu vas vivre jusqu'à 82 ans? Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit, « A'maru ummati, l'âge de ma communauté, c'est entre 60 et 70 ans. Généralement, d'une manière générale, le musulman, c'est ça qui va vivre. Entre 60 et 70 ans. Certains vont vivre plus tard. Et beaucoup vont vivre, vont s'arrêter avant, ne vont pas atteindre cela. Et généralement, c'est entre 60 et 70 ans. Subhanallah, donc toi, est-ce que tu as un cachet, tu sais que tu vas vivre jusque-là? Non. Généralement, la norme, c'est que tu n'arrives même pas jusqu'ici. Si c'est entre 60 et 70. C'est que tu n'arrives même pas, tu ne dépasses même pas les 80. Ça, c'est la norme. Donc, profite. Tu vas peut-être pouvoir faire une adoration que tu ne pourras jamais faire. Tu ne pourras jamais atteindre cela. C'est pour cela, en réalité, dans ces choses-là, on se doit de méditer et prendre conscience. Et ça doit nous motiver. Ça doit nous motiver. Alors, comment rechercher cette nuit qui est meilleure que 1000 mois? Subhanallah, un homme est venu voir Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, et il lui a dit, quand est-ce que je dois rechercher Laylatul Qadr? Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, recherche-la toute l'année. Recherche-la toute l'année. Et les gens, ils ont été voir Ubay ibn Ka'b, ils lui ont dit, pourquoi il a dit ça? Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, il a dit, il sait Abdullah ibn Mas'ud qu'elle est pendant Ramadan. Il a dit, mais pour pas que les gens ils se reposent que sur Ramadan. Pour pas que les gens ils se reposent que sur les 10 dernières nuits, comme malheureusement on voit aujourd'hui. Ils vont se reposer sur une nuit et tout le reste, ils vont être fainéants. Non. Il lui a dit, et en réalité, subhanallah, imagine maintenant, un seul instant, qu'on n'avait pas eu l'information que Laylatul Qadr, c'est pendant Ramadan. Mais on sait que Laylatul Qadr, c'est durant toute l'année. Eh bien, on l'aurait recherché toute l'année. Toute l'année. Tu sais qu'il y a une nuit sur toute l'année où tu dois rechercher Laylatul Qadr qui est meilleure que 1000 mois. On aurait dit quoi? Oh non, c'est trop compliqué. Wallah, on l'aurait cherché. On l'aurait cherché. Il y a combien de nuits dans l'année? 360. Imagine. On aurait fait des efforts durant 360 nuits. Mais regardez la miséricorde d'Allah. Regardez le lotf, la douceur d'Allah Azza wa Jalla envers nous. Allah, il connaît nos faiblesses. Allah Azza wa Jalla, il sait à quel point nous sommes faibles. Et regardez comment Allah Azza wa Jalla nous a fait la miséricorde. Ça, en réalité, Wallah, on doit prendre conscience de cela. On doit prendre conscience de cela. Allah Azza wa Jalla nous a réduit ces 360 à 10. Recherche-la dans ces 10. Regarde, subhanallah, ces 360 qu'on aurait été capable de le faire, Allah Azza wa Jalla nous l'a réduit à ces 10-là, ces 10 nuits. C'est pour cela que on doit remercier Allah pour son bienfait. Et le fait de remercier Allah pour son bienfait, c'est quoi? C'est de rechercher cette nuit durant ces 10 et de faire un maximum d'adoration. C'est pour cela que le prophète, alayhi salam, il dit « Taharraw laylatul qadri fil ashr al awakhir min ramadan » Recherchez laylatul qadr dans les 10 dernières nuits de ramadan. Recherchez cela. C'est pour cela qu'en réalité, on doit se motiver. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas motivé. Ce n'est pas normal qu'on... On fait tarawih et on pense que c'est bon, on rentre chez nous, on continue notre vie. Wallahi, c'est pas normal. On doit se poser la question, on doit se remettre en question. Elle est où notre motivation? Regardez le khayr, on ne peut pas être mahroum. On doit demander à Allah Azza wa Jalla de ne pas être, faire partie de ceux qui ont été privés. Un Nabi alayhi salam, il l'a recherché au début, pendant les 10, il faisait l'i'tikaf. Subhanallah, quelle belle adoration. L'i'tikaf, c'est quoi? Tu restes dans la mosquée. Et il y a quoi de plus beau que pour préserver ton jeûne des péchés, de la diminution, que de rester dans la mosquée? Ça veut dire que même si tu ne fais pas l'i'tikaf, profite au maximum de rester à la mosquée. Avant la prière, pendant la prière, après la prière, attends la prière, après l'autre. Fais du khayr. Quitte à ce que même tu mets la niya d'un i'tikaf quelques heures. Tu sais que les mosquées, elles sont ouvertes. Fais un i'tikaf. Pas forcément les 10 dernières nuits. Mais quelques heures, tu auras cette récompense. Le prophète, alayhi sallam, il a recherché pendant les 10 premières nuits. Ensuite, il a recherché pendant les 10 nuits du milieu. Ensuite, un ange est venu lui informer. Recherche-la dans les 10 dernières nuits. Recherche-la dans les 10 dernières nuits. C'est pour cela que ça, c'était un grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Également, salamun hi hatta matla'il fajr. Cette nuit, c'est une nuit de préservation. Cette nuit, elle est préservée contre tous les maux, toutes les mauvaises choses. Jusqu'à quand? Jusqu'au Fajr. Ça veut dire, est-ce que le fait de rechercher Laylatul Qadr, c'est seulement pendant Tarawih? J'insiste sur certaines choses, pas pour rien. Ce qu'on observe, la communauté. Hatta matla'il Fajr, jusqu'à la venue du Fajr, pas jusqu'à la fin du Tarawih. C'est ça, Laylatul Qadr, c'est comme ça que tu dois la rechercher. C'est toute la nuit, jusqu'au Fajr. Malheureusement, aujourd'hui, certains font Tarawih, ils rentrent chez eux, match de Ligue des Champions, et ils sont là. Les séries, la télé, ça rigole, ça discute, dans les salons de thé. Allez voir les salons de thé. Je ne vais pas donner des noms de rue, sinon les commerçants, ils vont me... Mais on connaît tous les rues où il y a les salons de thé. Allez, allez, bien sûr, n'allez pas. Je ne dis pas que c'est interdit d'aller au salon de thé, attention. Mais malheureusement, toute la nuit, ça discute, ça rigole, ceci, cela, et un tel, et j'ai un plan, et ceci, et la voiture, et... Non, pas maintenant, pas là. Pourquoi là, à ce moment-là, pourquoi? Pourquoi te priver d'un bien? Reste chez toi, reste à la mosquée. Fais du khair, fais du bien. Recherche Laylatul Qadr. Recherche-la durant les 10 nuits. On termine, parce qu'en réalité, ça, c'est des sujets où... Tellement de choses à dire. Mais on termine. Il faut bien terminer. On termine par un dernier point de réflexion. Maintenant que j'ai pris conscience de l'importance de rechercher Laylatul Qadr et que j'ai pris conscience que je dois la rechercher du Maghrib jusqu'au Fajr, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire durant cette nuit? Ben, la chose la plus importante à faire durant cette nuit, c'est quoi? C'est la prière. Il n'y a rien de plus important durant cette nuit que la prière. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salam, c'est l'adoration qu'il a spécifiée à ce moment-là. Il a dit, « Man qama laylatul qadr, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. » Celui qui prie durant laylatul qadr, poussé par sa foi et en recherchant la récompense, se verra tous ses péchés pardonnés. Verra tous ses péchés pardonnés. C'est pour cela que tu dois profiter. Tu dois profiter de faire un maximum de prières. Et c'est pour cela qu'il est recommandé de faire une umrah pendant le mois de Ramadan. Subhanallah, la Umrah, pendant le mois de Ramadan, elle équivaut à quoi? Un hajj. Et subhanallah, quand tu fais une Umrah, ben tu vas prier à Mecca. Une prière, elle est meilleure que 100 000 prières. 100 000 prières. Quand tu vas passer par le Médina, une prière, elle est meilleure que 1000 prières dans la mosquée du prophète, alayhi sallam. Donc ça, c'est une adoration. Généralement, quelqu'un va te dire, « Ah, Ramadan, il y a du monde. Moi, je préfère aller hors saison. » Subhanallah, tu n'as pas compris grand-chose. Il y a du monde. Et alors ? Je pense, allez, tu vois, certains, ils pensent qu'ils vont aller tout seuls. Ils veulent tawaf pour lui tout seul, sa femme Marwa pour lui tout seul. Et, subhanallah, il y a du monde. Et alors ? Et Dieu, demande à Allah de faire partie de ce monde-là. Fais partie de ces gens-là. Donc ici, on doit profiter de faire cette adoration. Surtout là maintenant, avec le pass vaccinal qui est enlevé, etc. On doit profiter. Pour ceux qui ne pouvaient pas y aller, qui profitent d'y aller durant ces moments-là. Donc on reprend la chose la plus importante à faire durant Laylatul Qadr, durant ces nuits-là, c'est la prière. La meilleure chose à faire, c'est la prière. Et le prophète, alayhi sallam, nous a enseigné, celui qui prie le Isha à la mosquée, il y a la récompense d'avoir prié la moitié de la nuit. Celui qui prie le Fajr à la mosquée, il y a la récompense d'avoir prié la moitié de la nuit. Donc déjà, tes prières en commun, ça déjà c'est la base. Il n'y a rien de plus important que les prières obligatoires. Et les gens, tu les vois aujourd'hui, ils sont attachés à la prière du Taraweeh ou à la prière du Tahajjud. Et le Maghreb, il ne prie même pas à la mosquée. Et le Maghreb, c'est la nuit. Hein. C'est la nuit des 10 dernières nuits. Hein. Le Maghreb, c'est une prière obligatoire. Regarde la différence entre le Taraweeh, le monde qu'il y a, et le Maghreb. Allahu Akbar. Là, on voit bien que les gens donnent plus d'importance au Taraweeh qu'au Maghreb, qu'à la prière obligatoire. C'est une erreur, c'est une grave erreur, très grave erreur. Le Maghreb, c'est à la mosquée qui se fait. Pendant Ramadan et en dehors du Ramadan. Et je dirais même plus, encore plus pendant Ramadan. Encore plus pendant les 10 dernières nuits. Non, nous, le Maghreb, on est où devant la table, garni. Subhanallah. Ça, on n'a pas réellement compris en réalité. On n'a pas réellement compris en réalité l'importance de la prière en commun. Ensuite, tu pries les prières de Taraweeh, tu pries les prières de Tahajjud. Il ne faut pas penser que c'est une différence. Taraweeh et Tahajjud sont les mêmes choses. Seulement que la meilleure des choses, c'est quoi ? La meilleure des choses, c'est de prier les deux. C'est-à-dire après l'Isha et avant le Fajr. Sinon, c'est de prier avant le Fajr. La base, le meilleur des moments, si tu dois faire un choix entre les deux, ce sera passer en priorité ce que tu as prié avant le Fajr. Si vraiment tu ne peux pas, tu fais après l'Isha. Dans tous les cas, fais un maximum de prières. Et aussi, un point important, c'est que beaucoup, quand on regarde, quand on observe le Taraweeh, on voit, subhanallah, qu'il y a énormément d'erreurs. Énormément d'erreurs que les gens commettent pendant les prières de Taraweeh. Parmi les erreurs, comme on a dit, c'est qu'ils vont se déplacer vers une mosquée sous prétexte que l'imam a une belle voix, quitte à rater l'Isha en commun. L'Isha, ce n'est pas un problème. Ils ne vont juste pas rater Taraweeh. Subhanallah. Les gens vont donner plus d'importance au qunut qu'à la prière du Isha. Non, ça c'est une erreur. Prie l'Isha, fais attention de ne jamais, peu importe où tu veux aller, de ne jamais rater la prière du Isha en commun. Également, parmi les choses importantes à dire sur ce sujet, c'est qu'une erreur que les gens font, c'est qu'ils prient avec l'imam, et au bout de 2 raka'a, ou 4 raka'a, ou 6, ou même 8, alors qu'il ne reste quasiment plus rien, ils partent. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu pars ? Le prophète, alayhi wa sallam, dit « Man qama ma'a l'imam » Celui qui prie avec l'imam, « Hatta yan sarif » Jusqu'à ce que l'imam y parte. Attends que c'est lui qui arrête, pas toi. « Kutiba lahu qiyam al-layla » Lui sera inscrit la récompense d'avoir prié toute la nuit. Regarde, subhanallah, le khir que tu peux gagner. Mais pars pas avant. Pars pas avant. Aussi, une des erreurs qu'ils font, que certaines personnes elles font, c'est que l'imam Issalam, l'imam il se relève pour Kabbar et les gens ils sont assis. Ils t'entends toutes les bouteilles d'eau partout qui s'ouvrent et ça boit et ça regarde, ça envoie les derniers textos et l'imam il est déjà passé à la fatiha, voir à la salat et lui Kabbar. Ben ça c'est une grave erreur. Pourquoi ? Parce que le takbiratul ihram c'est un pilier de la prière. Et le fait d'accomplir un pilier de la prière avec l'imam, tu es récompensé. Donc lorsqu'il dit Allahu Akbar, tu dois déjà être prêt. Allahu Akbar. L'erreur que l'on fait, c'est quoi? C'est que nous, quand on fait Allahu Akbar, il est où? Il est déjà à la Fatiha. Il a déjà passé un autre pilier. Il est passé à un autre pilier. Pilier Takbirat al-Ihram, Fatiha, un autre pilier. Donc toi, tu auras raté la récompense d'un pilier de la prière. Tu n'auras pas la récompense de la prière entière. Regarde cette erreur-là. Ou même des fois, les gens avec le siwak. Il est en train de faire le siwak, l'imam Kabbari, akhi, subhanallah. C'est plus le moment de faire le siwak. Ou la personne est en train de faire les rangs. C'est pas maintenant de faire les rangs. Il regarde, il colle son pied, il regarde les pieds des autres. Et là, il se retourne partout. Alors que l'imam a déjà... Non, tout ça, c'est des erreurs que l'on voit. Ou ne parlons même pas des rangs dans la prière. Subhanallah, des fois, à la fin de Tarawih, on dirait c'est il y a eu une bombe, elle est descendue sur la mosquée. Deux, il prie là, trois là, l'autre qui est là, l'autre qui est ici. Subhanallah. Et même une des erreurs que les gens font, c'est quoi? C'est que des fois, dans Tarawih, la personne, elle s'arrête, elle va au fond et elle lit le Coran. Tu dis, c'est quoi, j'ai envie d'avancer dans le Coran? Il lit le Coran. Ici, on pose une question, subhanallah, à tout le monde. C'est quand le meilleur moment pour lire le Coran? Le meilleur moment pour lire le Coran, le meilleur moment pour méditer sur le Coran, pour réfléchir sur le Coran, c'est quand? C'est dans la prière. C'est dans la prière. Il n'y a pas de meilleur moment pour réciter le Coran, pour écouter le Coran, pour méditer sur le Coran que pendant la prière. Il n'y a pas. Ben profite. Pourquoi tu vas aller au fond lire le Coran alors que c'est là qu'il faut le lire? Également, certains, le Tarawih, c'est qu'une voix, une belle voix. Ah lui, j'aime bien quand c'est lui. Ah, c'est lui. Oh. Subhanallah. C'est pas ça, on n'a pas compris. Le Coran, c'est pas une voix. Le Coran, il a été révélé pour qu'on médite. C'est pour cela que toi, tu dois te renseigner. Qu'est-ce que le shir, qu'est-ce que l'imam, il va réciter ce soir? Comme ça, toi, tu lis. Minimum, tu lis en français. Encore mieux, tu lis le tafsir. Comme ça, toi, tu peux méditer. Le tarawih, il est fait pour méditer. Il n'est pas fait pour avoir mal aux jambes et tourner dans tous les sens et attendre. Ou des fois même, tu vois, quand l'imam, il prie, les gens sont énervés parce qu'il y a tawal. Ouais, il a récité longtemps. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils vont au fond, ils lisent le Coran. Tu dis, mais subhanallah, le Coran que tu es en train de lire, le meilleur, c'est de l'entendre ici dans la prière. Donc ici, on voit l'importance de comprendre cela. Donc on a dit la meilleure chose à faire durant ces nuits-là, c'est de prier. Prie. Ça, c'est le prie. Bismillah, vas-y. Ne te mets pas un nombre déterminé. Tu vas dire, je vais faire que 11. Bien sûr, le prophète, il faisait 11, mais regarde les raka'at que faisait le prophète, c'est pas comme nous. En ce moment, c'est quoi dans les messages? Un hizb. C'est pas un hizb. Le Nabi, il est rapporté dans une raka'a, 10 hizb. Une raka'a. Al-Baqara, Al-Nisa, Al-Imran. En tout, ça fait 10 hizb. Une raka'a. Bah, calcule 11 comme ça. Si tu fais 11 comme ça, oui, fais 11. Si tu fais 11 comme faisait le prophète, fais 11. Mais sinon, subhanallah, prie. Ne te restreins pas à cela. Ensuite, je termine rapidement. Ça ne s'arrête pas à la prière les nuits. Tout ce qu'il y a, regarde le temps. Tu as prié Tarawih, allez, tu as prié Tahajjud. Ben, n'oublie pas que ta nuit, elle n'est pas finie. Elle commence déjà le Maghreb. Ta nuit, elle commence à le Maghreb. Ben, déjà, ce qui est entre le Maghreb et l'Isha, profite. Profite de lire le Coran, profite de faire du khair entre cette période-là. Fais attention que ton iftar, comme on a dit tout à l'heure, fais attention que ton iftar ne soit pas la cause d'un grand péché qui est le fait de rater la prière en commun à la mosquée. Fais attention à ce que ton joli plat et tes belles boissons ne soient pas la cause d'un grand péché qui est le fait de délaisser la prière en commun. Attention. Fais attention que ton iftar ne soit pas la cause d'une paresse. T'as tellement mangé. T'arrives même plus à bouger. T'es dans un étang, on t'a mis des pierres à l'intérieur de toi. Non, non, c'est pas ça. Et là, c'est un bon mangeur qui vous parle. J'aime bien manger. Mais là, à ce moment-là, tu peux pas. À ce moment-là, attention. Attention à ce moment-là. D'accord? Également, parmi les grandes actions que tu peux faire durant cette nuit, c'est la lecture du Coran. Nous sommes dans le mois du Coran. Tu recherches la nuit où le Coran a été révélé. Dans ce cas-là, et une part dans la lecture du Coran, et notamment entre le Maghreb et l'Isha. Entre le Maghreb et l'Isha, tu as prié à la mosquée, tu fais ton iftar, tu manges de quoi, alhamdulillah, te rassasier ou de te redonner la force, viens à la mosquée et lis ton Coran. jusqu'au Isha. Au Isha, tu pries Tarawih. Et ensuite, tu continues tes adorations, même si tu veux rentrer chez toi te reposer. Et bien, sur la route, tu fais du dhikr, tu fais des du'a, comme on le verra. Et ensuite, tu reviens pour tahajjud, ensuite, tu lis le Coran. Et ça y est, le fajr est arrivé. Ben là, tu as un programme. Là, tu as un programme. Également, parmi les choses à faire, c'est les du'a, les invocations. Les invocations. Aïcha radiallahu anha, elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, si je sais quand est-ce que c'est Laylatul Qadr, qu'est-ce que je dois dire? Il lui a dit quoi? Tu dis, Quli, Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'afu anni. Subhanallah, ce hadith, il est obligé, faut méditer dessus. Dans ce hadith, on a deux choses, une question, une réponse. La question d'Aïcha radiallahu anha, c'est quoi? Si je tombe sur Laylatul Qadr, qu'est-ce que je dois dire? Ça veut dire qu'elle savait et les compagnons savaient que c'est une nuit d'invocation. Premièrement, prends cette leçon. C'est une nuit de dua, c'est une nuit d'invocation. Deuxièmement, la réponse. Le prophète, alayhi salam, il ne lui a pas donné une autre invocation. Mais regardez celle qu'il lui a dit. Allahumma innaka afuun. Oh Allah, tu es al-afu. Allez, celui qui pardonne les péchés, bien que faudrait un cours entier pour expliquer al-afu. والعافية. Oh Allah, tu es العفو. تحب العفو. Tu aimes le pardon. فاعفو عني. Alors pardonne-moi. Bien sûr, tu peux invoquer par d'autres invocations. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné cette invocation particulièrement. Pourquoi? Les savants ont donné deux explications à cela et c'est important de les comprendre. Premièrement, qu'est-ce qu'il est recommandé à faire durant ces 10 dernières nuits? Un maximum d'adoration. Vous êtes d'accord avec moi? Comme on l'a vu. Veiller la nuit, réveiller ta famille, shadda l'izar, serrer l'izar, redoubler de piété. Tout ça, c'est recommandé. Mais le musulman, est-ce que quand il fait toutes ces adorations-là, il pense que ça y est, il y a le paradis qui est accordé. Ça y est, lui. Non. Le musulman, sans cesse, il doit voir ses manquements. Sans cesse, il doit prendre conscience que peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as fait, tu te dois savoir que ce n'est pas suffisant. Dans ce cas-là, demande à Allah Azza wa Jalla qu'il te protège tes manquements, qu'il te pardonne tes manquements. Demande à Allah Azza wa Jalla cela. Ça, c'est un point important. Et ça, c'est la caractéristique des croyants. Allah Azza wa Jalla dit « وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ » Et quant à ceux qui font ce qu'ils font, et leur cœur est effrayé, à savoir qu'ils vont retourner auprès d'Allah Azza wa Jalla. Aïcha radiallahu anha a demandé au prophète, ceux qui sont qui? Ceux qui commettent la fornication? Ceux qui volent? Le prophète a dit non. Il dit, ce sont ceux qui font des bonnes actions. Mais ils ont peur qu'Allah n'a pas accepté de eux. Et bien c'est ça qu'on doit, comme ça on doit être durant ces 10 dernières nuits. C'est pour cela que quand tu demandes cette invocation, tu demandes, toi tu ne sais pas, est-ce que tu as été sincère dans ce que tu as fait? Est-ce que tu as suivi la sunna dans ce que tu as fait? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a accepté ton acte? Ça tu ne le sais pas. Dans ce cas-là, tu demandes à Allah Azza wa Jalla de te pardonner tes manquements. Et aussi, comme on a dit tout à l'heure, c'est la nuit durant laquelle Allah, il descend. Allah Azza wa Jalla, on a dit le taqdir. On a expliqué que le taqdir, il se divise en plusieurs. Taqdir al-umuri. Un décret de toute ta vie. Ça, c'est quand il vend dans le ventre de ta mère. Allah, il envoie un ange, il cite quatre paroles. Est-ce que tu es des gens du paradis, des gens de l'enfer, ta vie, ta mort, etc. Un taqdir sanawi, un décret annuel, c'est ce qui est là ici. Le décret annuel, c'est ça. Ça veut dire que si toi, tu demandes à Allah al-afu, tu demandes à Allah de te protéger, de te préserver contre toutes les mauvaises choses, tu demandes à Allah de te pardonner tes péchés, à ce moment-là, ben toute ton année, en fait, tu prépares ton année. Toute ton année, tu récolteras le bien et la miséricorde. Également, comme on a dit, c'est une nuit d'invocation, fais des invocations. Demande ce que tu as besoin à Allah Azza wa Jal. Fais du dhikr. Tu répètes les quatre paroles les plus aimées auprès d'Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Fais beaucoup d'istighfar. Et ici, une petite faïda que je lisais tout à l'heure dans le livre d'Ibn al-Qayyim al-Wabil al-Sayyib. Qu'est-ce qu'il dit, subhanallah? Il dit la question a été posée à Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahimallah. C'est quoi le mieux entre dire astaghfirullah et entre dire subhanallah? Tu dois choisir. C'est quoi le mieux entre les deux? Vous savez ce qu'a répondu Cheikhoul Islam? Il a dit un habit. Quel est le mieux quand tu as un habit sale? Quand ton habit il est sale, c'est mieux quoi? De le parfumer ou de le laver? C'est mieux de le laver. Quand ton habit il est propre, c'est mieux de le parfumer ou de le laver? C'est de le parfumer. Dans ce cas-là, toi, tu regardes comment tu es. Si tu sens que tu es dans l'adoration, dans ce cas-là, fais, parfume-toi, yani. La ziyada, subhanallah, sera dû. Si tu vois que tu as des manquements, fais l'istighfar. Et les savants, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, que dire de nous que nos habits sont toujours sales? Dans le sens qu'ils se voient toujours avec des manquements. Donc ici, c'est une petite faïda, profite qu'on est là et on termine sur le fait que fais des sadaqats, fais des bonnes actions, fais du khayr durant cette nuit-là. Il ne reste qu'une poignée de jours à nous de profiter. Désolé, j'ai été plus long que d'habitude, mais alhamdoulilah, c'était la dernière conférence pour moi ici, dans cette mosquée, durant le mois de Ramadan. Donc je voulais me rattraper un peu. Et alhamdoulilah, on profite ensemble. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala anihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا من النار والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم